Quand on va être avec le Seigneur, hein, est-ce qu'on va aimer ça, jeter nos couronnes à ses pieds? Hein? La couronne de persévérance, la couronne de justice. Puis, comment est-ce qu'on serait déçu? Comment le Seigneur serait déçu si on n'avait rien à lui offrir, hein, rien à lui donner? Et concernant le libre arbitre, ça me fait penser dans Matthieu 23, là, quand le Seigneur se lamente sur Jérusalem, au verset 37. Il dit, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Hein? Dieu leur a envoyé le Messie, le peuple élu de Dieu, qui était là pour annoncer, pour transmettre la parole de Dieu, pour transmettre le salut aux nations païennes autour. Ils ont reçu leur Messie, puis ils l'ont rejeté. Ils n'ont pas voulu venir à lui. On voit que c'est un rejet volontaire de leur part. Hein. Puis, Oikonomia, bien, on a vu que ça, c'est l'administration. Oikos, c'est maison, puis Nomos, c'est la loi, c'est la manière de gérer une maison, d'administrer une maison. Et puis, moi, le passage où on voit vraiment cette administration, c'est Kevin a parlé un peu tantôt, c'est dans l'économe infidèle, dans Luc au chapitre 16. On voit la responsabilité de l'homme, on voit la continuité dans le plan de Dieu à travers l'histoire, à travers le temps. On voit la faillite de l'homme dans sa responsabilité. Puis on voit que Dieu intervient par grâce, puis il donne une manière d'aller de l'avant, de continuer, puis de finir par lui plaire. Mais il faut vraiment avoir ce désir de lui plaire. Donc, on voit dans Luc au chapitre 16, justement, le mot oikonomia qui est utilisé. Puis là, c'est le Seigneur qui donne cette parabole-là de l'homme riche, puis sur l'homme riche qui est l'administrateur de sa maison. Hein, au verset 1, on voit le Seigneur qui dit à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. Donc, comme il a failli à sa responsabilité, puis le maître en a entendu parler, ben il va le remplacer. Il va lui faire rendre des comptes de son administration. Donc, mais on voit que le Seigneur le loue pas de ce que l'économe a mal géré les biens que le maître lui avait confiés, mais pas de ce qu'il l'a volé, mais de ce qui est justement sa sagesse pour son avenir. Il a pensé à son avenir. Donc, lui a appelé les débiteurs de son maître, hein, c'est pas ses débiteurs à lui, c'est ceux de son maître, puis il a diminué le montant dû par chacun. Puis il a reconnu qu'il avait agi, cet économe-là, en homme avisé. Mais il a tout de même été remplacé, parce qu'il a failli à sa tâche, il a mal accompli sa responsabilité, puis il est remplacé par un nouvel économe. Ça veut dire quoi? Qu'il y a une nouvelle administration, il y a un changement d'administration. Puis un changement d'économe, ben ça veut dire qu'il y a un changement d'administration. On voit que l'application que le Seigneur fait, au verset 9 dans Luc au chapitre 16, hein, il dit, « Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses est aussi dans les grandes. » Donc on voit qu'avec l'application que le Seigneur fait, il sous-entend un changement de dispensation de la vie dans ce monde à la vie dans les habitations éternelles. Ça nous parle, il nous parle à nous, là, hein, il dit « faites-vous des amis avec les richesses injustes », ça nous parle de nous pendant qu'on est sous le temps de la grâce, puis en attendant qu'on soit dans les tabernacles éternels, dans le ciel avec le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est quoi l'application pour nous, hein, de ça? C'est pendant qu'on est dans le temps de la grâce, il faut utiliser tous les moyens que le Seigneur nous donne pour accomplir la responsabilité qu'on a La grande commission que le Seigneur a donnée, faites de toutes les nations des disciples, mais enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Hein, c'est pas, ça implique ces deux aspects-là, de témoigner, d'utiliser nos richesses que nous avons, qui sont pas, qui nous appartiennent pas, qui appartiennent au Seigneur. Ce que nous avons, c'est le Seigneur qui nous le donne, mais il veut qu'on l'utilise avec sagesse, comme l'économe infidèle a fait. Donc, puis, on a parlé que la dispensation de distributeur, puis ça me fait penser à un verset que j'enseignais dernièrement, dans 1 Pierre au chapitre 4, verset 10. Hein, il dit, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Hein, tout le monde, à notre conversion, on reçoit un don que le Saint-Esprit nous donne à chacun en particulier comme il veut. Pour quelle raison? Pour l'utilité commune. Donc, chacun de nous, on a cette responsabilité-là, sous le temps de la grâce, d'utiliser ce don-là que nous recevons à notre conversion, qui est donné par le Saint-Esprit pour l'utilité commune. Ce n'est pas limité juste à tout le monde. À notre conversion, on reçoit un don du Saint-Esprit. C'est pour ça que si on ne fréquente pas une église locale, comment est-ce qu'on va mettre ce don-là au service des autres? Hein, on a besoin de cette communion-là, on a besoin. Ça, c'est une responsabilité qu'on a. Puis on met vraiment notre don, notre talent que l'Esprit nous donne au service du Seigneur pour l'utilité commune? Hein, souvent, on laisse aux autres le soin de faire ce qu'il faut faire. On s'en remet aux autres. Puis je trouve que dans les églises où il y a un pasteur, une personne attitrée, bien souvent on se remet sur lui, mais on oublie qu'on est un sacerdoce royal. Chacun de nous, on est des sacrificateurs. Puis qu'est-ce que j'ai aimé là, on est les ouvriers avec Dieu, on est le champ de Dieu, puis on est un édifice. Hein, on est ouvrier. Est-ce qu'on travaille vraiment à l'œuvre de Dieu dans cette économie-là que nous avons de la grâce? Si Dieu était gracieux envers nous, nous aussi, on doit être gracieux. Si Dieu nous a aimés le premier, ben nous aussi, on doit aimer. Puis, hein, on est des ouvriers, on est le champ de Dieu. En parlant des talents, dans Matthieu au chapitre 13, hein, il dit que Dieu donne à chacun, on va aller voir dans Matthieu au chapitre 13, le verset 23, pour Paul. Il dit au verset 23, celui qui a reçu la semence de la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. On l'entend puis on la comprend. On comprend qu'il faut la mettre en pratique. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60 puis un autre 30. Donc chacun, on y va selon notre capacité, un peu comme la parabole des talents dans Matthieu 25. Hein. Il y en a un qui reçoit 5 talents puis il multiplie, il développe les 5 talents. Puis il redonne 5 autres talents de plus. Celui qui en a reçu 2, il en donne 2 de plus. Mais celui qui en a reçu juste un, qu'est-ce qu'il fait? Il va l'enterrer, puis il fait rien avec. Donc, il ne faudrait pas être dans cette situation-là, que ce talent-là que Dieu nous donne, on ne l'utilise pas pour Dieu. Donc, bien gérer les biens, ce que Dieu nous donne à gérer, c'est notre argent, c'est notre temps. C'est nos talents, c'est nos dons que Dieu nous donne. Puis, on reçoit un don spirituel, mais on a aussi des talents naturels que nous avons à notre naissance, qu'on peut mettre aussi au service de Dieu. Hein, si je suis bon en mathématiques, ben je peux m'impliquer dans la comptabilité, je peux aider mon prochain en faisant des rapports d'impôts. Des choses comme ça. Dorcas, elle avait de la compassion pour les gens. Mais elle utilisait son talent de couturière pour faire des tuniques, pour aider les gens qui étaient démunis, etc. Donc, on peut utiliser un talent à travers notre don spirituel aussi. Donc, je pense que c'est important de se poser la question, qu'est-ce que je fais avec ce que le Seigneur, les responsabilités que le Seigneur me donne avec mon argent, avec mes talents, avec mon temps, comment est-ce que je l'utilise pour le Seigneur? Parce que un jour ou l'autre, hein, va falloir rendre compte devant Dieu de comment est-ce qu'on aura géré notre administration, un peu comme cet économe-là, infidèle. Donc, pour nous, on peut aider les gens de différentes manières avec notre argent, mais est-ce qu'on l'administre comme l'économe infidèle en pensant que c'est nos biens à nous, puis qu'on n'a pas de compte à rendre? Hein? Est-ce qu'on tombe dans les richesses injustes? Parce que souvent, on va agir comme cet économe-là infidèle en oubliant que ce que nous avons, c'est Dieu qui nous le donne, puis qu'on va devoir rendre compte devant Dieu. Et nous aussi, si on agit comme ça, on est injuste dans notre manière de gérer les richesses qu'on a. Et puis, ça me fait penser aussi de gérer nos biens, de gérer ce que le Seigneur nous donne pour aider notre prochain. Dans la parabole, dans Matthieu, au chapitre 19, du jeune homme riche, Matthieu au chapitre 19, on voit au verset 16, « Voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? » Puis dans les autres passages dans Luc, on voit qu'il est venu se jeter à ses pieds. Hein, et vraiment, il y avait ce désir-là de faire quelque chose pour le Seigneur. Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Et là, il demande lesquels. Et Jésus lui répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? » Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Donc, on voit qu'il y avait des biens qu'il gérait en pensant que ça lui appartenait. Puis, quand il parle des commandements, il y en a un que c'est pas dans les 10 commandements. Hein, si vous avez remarqué, il dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Hein, c'est pas un des 10 commandements. Mais c'est l'esprit des 10 commandements. Dans le chapitre 22 dans Matthieu, quand le docteur de la loi est venu pour le voir, puis il a dit, c'est quoi le plus grand commandement? Hein, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta pensée. Et celui-ci qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Puis ça résume toute la loi puis les commandements. Ça résume, c'est vrai. Quand les 4 premiers commandements, c'est comment est-ce qu'on va honorer Dieu, comment est-ce qu'on va aimer Dieu, hein, de ne pas avoir d'autres dieux devant sa face, de ne pas se faire de représentation quelconque de Dieu, de pas prendre le nom de l'Éternel en vain, puis d'observer le sabbat. Mais les 6 autres commandements, c'est tout dans notre relation avec notre prochain. C'est ça l'esprit de la loi, c'est d'aimer notre prochain comme soi-même. Puis si Dieu aime, hein, c'est dans les 10 commandements d'aimer Dieu puis d'aimer son prochain. Comment est-ce qu'on pourrait dire que Dieu, il y en a qui aiment puis qu'il y en a qui n'aiment pas? Hein? Dieu est amour. Il est juste, mais il prouve son amour parce que lorsqu'on est encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, dans sa justice, pour que le châtiment ne tombe pas sur nous, il l'a fait tomber sur le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est de l'amour. C'est de l'amour de la part du Seigneur Jésus-Christ aussi, qui a accepté volontairement de venir pour faire la volonté de Dieu. Dans Luc, chapitre 18, verset 22, hein, c'est la même parabole, mais il dit « Distribue-la aux pauvres. » Ben, le jeune homme riche, il dit « Oui, oui, j'ai aimé mon prochain comme moi-même, mais je veux pas me séparer de mes biens. Hein, je veux pas les distribuer aux pauvres, je veux les garder pour moi. » Donc, on voit que c'est ça l'esprit qu'il y a dans cette parabole de l'économe infidèle. Donc, nous, c'est... Il faut qu'on se fasse des richesses dans les habitations éternelles quand elles viendront à nous manquer. Ben, il n'y a aucune richesse qu'on peut amener au ciel. Hein? On n'amènera rien de nos biens. Mais ce qu'on peut amener, par exemple, c'est les récompenses qu'on va pouvoir jeter au pied du Seigneur, qui va récompenser notre fidélité, qui va récompenser notre persévérance, notre justice aussi. Donc, On peut aider les nécessiteux, nourrir les affamés, vêtir les pauvres comme Dorcas qui aidait, soigner les malades, témoigner, hein, la commission que le Seigneur a donnée, poursuivre le travail du Seigneur, ce qui nous demande en se faisant des amis. C'est lorsqu'on, si j'aime mon prochain comme moi-même, que je lui démontre cet amour-là, bien, il va être pas mal plus ouvert à ce que je lui parle de l'amour de Dieu, si je suis capable de lui démontrer cet amour-là qui est vivant en moi, hein, d'aimer son prochain puis de l'aider. Puis là, beaucoup de nous, on est à la retraite, mais on fait quoi à la retraite? Est-ce qu'on cherche des moyens de prouver l'amour de Dieu à notre prochain pour ouvrir son cœur à ce qu'il soit disposé? Des fois, on dit un verset, mais il veut voir la preuve de ce qu'on dit en action, en vérité. En réalité. Donc, c'est question qu'on peut se poser. Donc, on voit que l'homme riche a engagé un administrateur pour les biens que lui avait. L'administrateur, il ne possède pas les biens. Ils appartiennent encore au maître, mais il a la gestion de ces biens-là. Puis, l'économe infidèle, bien, là, il est infidèle, mais l'économe, normalement, il est redevable de son administration à son employeur. Puis, dans notre cas, ben, il n'a pas agi avec fidélité, puis il est remplacé. Puis, donc, on voit que cette parabole-là, le Seigneur utilise des situations qui étaient à cette époque-là. Hein, les gens riches, ils faisaient administrer leurs biens par une personne qu'elles engageaient dans ce but-là. Ben, le dispensationalisme, il voit le monde comme une maison divine. Dieu, il est le propriétaire, puis les humains doivent administrer les possessions de Dieu. Donc, tout ce que nous avons, ça nous a été donné par lui, comme il a demandé à Adam de gérer à la création, de nommer les animaux, de cultiver, etc. Il a donné la responsabilité de sa création. Il fallait qu'il gère comme il faut. Malheureusement, il a failli à sa responsabilité, puis là, bien, la terre et souffle les douleurs de l'enfantement à cause du péché. Mais un jour, tout va être rétabli, restauré. C'est important de prendre conscience que tout ce que nous avons, ça a été donné par Dieu, que ces possessions-là, ça ne nous appartient pas. On est simplement des administrateurs pour Dieu, comme c'est enseigné explicitement dans le mandat que Dieu a donné à Adam, à la création. Donc, on voit que Dieu nous a créés pour diriger sa création, puis on va devoir rendre compte un jour à Dieu pour notre administration des biens. Et puis, ça me fait penser dans 1 Pierre, justement, tu sais, il va falloir qu'on rende compte un jour devant Dieu. Je pense souvent, on oublie ça, qu'il faut, va falloir rendre compte de notre administration comme l'économe infidèle. Dans 1 Pierre au chapitre 4, ben justement, c'est 1 Pierre 10 qui parle de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Ainsi, dispensateur, moi, ça me fait penser à une machine distributrice. Hein. C'est choquant quand on arrive à une machine distributrice, tu as mis de l'argent dedans, puis il n'y a rien qui sort. Hein? Puis, est-ce que c'est ça des fois? Est-ce que je suis un bon distributeur ou s'il n'y a rien qui sort de... qui devrait sortir, que le Seigneur il a déjà payé pour ça, là. Puis il faudrait que ça sorte, puis ça ne sort pas. Puis justement, il dit qu'on doit mettre au service des autres le don qu'on a reçu, puis un petit peu plus loin, au verset 17, hein, c'est là qu'on voit qu'il faut bien distribuer hein, les richesses que Dieu nous donne. Il dit « car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu ». Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. » Donc, on voit qu'on va avoir des comptes à rendre. Puis, il va falloir, dans 2 Corinthiens 5, hein, il dit de... chacun de nous va devoir rendre compte selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans ce corps. pas pour le salut, mais il va falloir rendre compte de notre administration, de ce que le Seigneur nous a donné. Puis on est sous le temps de la grâce, mais est-ce qu'on est gracieux? Est-ce qu'on aime notre prochain? Est-ce qu'on fait ce que le Seigneur demande, nous a demandé? Ensuite, on a survolé, on a regardé d'autres endroits où il y avait le mot dispensation. On a regardé dans Éphésiens au chapitre 3, où ce mot-là est vraiment utilisé. Dans Luc, c'était plus un sens technique, mais dans Éphésiens chapitre 3, on voit que c'est plus un sens spirituel, si on veut. Donc, ici, au chapitre 3, l'apôtre Paul, on voit qu'il utilise ce mot-là, oikonomia, dans un sens plus large, théologique, puis il l'utilise pour décrire des périodes dans l'histoire de la rédemption. Donc, on voit que dans ce chapitre-là, 3, Paul y introduit son ministère pour le bien-être des païens en décrivant, en rappelant comment il a fait part de la grâce de Dieu, son administration de la grâce de Dieu. On l'a vu au verset 2, si vous, du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous. Puis au verset 7, on voit à la fin du verset 6, on participe à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Bien, on pourrait lire toutes 6. Là. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Donc, Dieu lui a donné, par sa grâce, d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Au verset 8, on peut lire ça. « À moi qui suis le moindre de tous les saints », on voit qu'il ne se glorifie pas de ça. Il faut vraiment accepter ces missions-là que le Seigneur nous donne avec humilité, en reconnaissant que c'est lui qui nous donne tout ce qui est nécessaire pour travailler pour lui. Il dit qu'il suit le moindre de tous les saints. Cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Puis on voit que cette dispensation, c'est un mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toute chose. Ça, c'est le verset 9. Hein? Mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toute chose. Ça a été révélé aux dominations et aux autorités dans les lieux célestes. Donc, cette dispensation de l'Évangile, c'est selon le plan éternel de Dieu, le dessein éternel qui a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. Hein, on a vu, Éphésiens 1:10, on a été élus en Christ. C'est Christ qui a été élu dès la fondation du monde. Donc, en lui, on a la foi par lui, la liberté de s'approcher de Dieu avec confiance. Verset 12, hein? « En lui, nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. » Donc, cette dispensation-là a été révélée à Paul, puis que cette nouvelle dispensation, c'est l'Évangile, la bonne nouvelle, que le Seigneur a réuni les Juifs puis les païens en un seul homme nouveau, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y avait eu une dispensation avant celle-là. Il y avait eu une autre manière de Dieu d'appliquer son plan pour l'humanité. Puis si cette dispensation-là a été accomplie par l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, elle ne pouvait pas exister avant la venue du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui l'a accomplie en venant. De plus, nouveau, ça implique qu'il y a une ancienne dispensation. On voit que dans Éphésiens 2, comme l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, lors de son incarnation, sa vie, sa mort et sa résurrection, on voit que Paul y explique le contraste entre le peuple d'Israël, la nation d'Israël, les païens. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 11, hein, il dit, c'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, les Juifs, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Hein, les Juifs, ils sont circoncis dans la chair, mais un Romain nous dit qu'ils ne sont pas circoncis de cœur, mais qu'il y a des païens, par exemple, qui sont circoncis de cœur. Il dit, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, sans Christ, hein, ça c'est des païens, privé du droit de cité en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais il dit, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Donc, on voit qu'il y a vraiment un changement qui vient de se produire avec ce que le Seigneur a fait à la croix. Donc, on voit que cet état d'impuissance, de séparation d'avec Dieu, ça ne veut pas dire que les païens étaient incapables d'expérimenter les bénédictions de l'alliance que Dieu avait utilisé Israël pour transmettre ces bénédictions-là. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de païens qui l'ont fait, qui sont devenus des prosélytes. On voit ça qu'il y avait des prosélytes, c'est-à-dire des païens qui se tournaient vers la religion, les juifs, pour connaître le salut. Donc, déjà, ils pouvaient participer aux bénédictions de Dieu aux côtés d'Israël en faisant partie de la nation. Mais depuis la venue du Seigneur Jésus-Christ, les choses sont différentes pour les Juifs et pour nous, les païens. Hein. Toujours dans Éphésiens 2, on a vu au verset 13, on était éloignés, on a été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre, en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient prêts. Hein, les Juifs, ils étaient tout le temps en train d'essayer d'accomplir la loi, puis ils n'étaient jamais la paix avec ça. Mais nous, en Christ, on a un nouveau sabbat. Le premier jour de la semaine, c'est notre temps de repos. Quelle paix on a maintenant! Hein, on a pu, pendant les Juifs, pendant toute la semaine, fallait qu'ils essayent d'accomplir la loi, puis ils se reposaient le dernier jour de la semaine, le samedi. Mais nous, en Christ, notre jour de repos, c'est le premier jour de la semaine. Dans l'œuvre de Christ à la croix, on n'a plus rien à faire pour que Dieu nous accepte dans son ciel. Tout ce qu'on a à faire, c'est de regarder au Seigneur Jésus-Christ à la croix. Ça, c'est la paix. Puis même les Juifs, maintenant, ils peuvent connaître cette paix-là en se tournant vers le Seigneur Jésus-Christ, celui qu'ils ont rejeté. Donc, on voit vraiment toute une différence qu'il y a maintenant. Hein, même pour les Juifs, s'ils passent par le Seigneur Jésus-Christ, et comme nous, ils vont avoir cette paix-là qui surpasse toute intelligence. Puis c'est pour ça que dans Romains, il dit que tous sont corrompus, tous se sont pervertis, nul ne cherche Dieu. C'est un plan que l'homme n'est même pas capable d'inventer, d'imaginer un plan comme ça. Mais Dieu, par exemple, il nous révèle par sa parole comment ce plan-là est accessible à nous. Hein? De nous-mêmes, on n'aurait pas imaginé un plan parfait comme Dieu l'a imaginé. N'importe qui peut venir. Pas besoin d'être fort, pas besoin d'être en bonne santé, pas besoin d'être riche, qu'on soit esclave ou libre, etc. Tout le monde, même un enfant, peut venir à connaître le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur. Donc, on voit un seul homme nouveau qui a été créé à partir de deux groupes. Puis, le peuple de Dieu a toujours été constitué par ceux qui se joignent à lui par la grâce au moyen de la foi. En Israël, c'est par la foi. En Abraham, c'est par la foi qu'il a cru, puis qu'il a obéi à Dieu par la foi. Donc, Israël, c'était le peuple de Dieu aussi dans ce temps-là par la grâce au moyen de la foi. Puis, les païens, les nations pouvaient venir à Dieu au moyen de l'alliance que Dieu avait faite avec la nation d'Israël, par grâce, par le moyen de la foi, dans le Dieu d'Israël. La loi de Moïse, ben, ça réglait, ça leur disait comment s'approcher de Dieu, hein, leur adoration, leur relation avec Dieu. Mais nous, maintenant, en Christ, Dieu a créé un nouvel homme, un peuple qui est composé de Juifs, de païens. Puis les païens n'ont plus besoin de se faire circoncire pour faire partie du peuple d'Israël, parce que dans ce temps-là, si Timothée, il voulait le faire circoncire parce qu'il Il n'avait pas été circoncis, puis là, finalement, ils ont vu que c'était plus nécessaire. Donc, on n'est plus séparés à cause de notre incirconcision de chair. On est ensemble en paix avec Dieu, puis les uns les autres en Christ. On pourrait lire la fin du chapitre 2 d'Éphésiens, là. « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Puis on a parlé d'édifice. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Quelle différence, hein? Maintenant, on a l'Esprit de Dieu en nous. Dieu a créé l'homme à son image. Puis dans le monde, on essaye de dire que l'homme puis le singe descendent d'un même ancêtre commun. Ils disent plus qu'on descend du singe, mais que l'homme puis le singe ont eu un ancêtre commun puis qu'ils se sont séparés dans l'évolution, on va dire, entre guillemets. Puis, mais il y a une différence. Le singe n'est pas fait à l'image de Dieu. C'est quoi la différence? Il y a juste dans l'homme que Dieu a soufflé son esprit. Mais là, il nous montre des fois des singes ou des gorilles qui apprennent le langage des signes pour montrer qu'on vient de la même origine. Hein? C'est vrai. Ils essayent de nous montrer des singes savants ou des... qui leur apprennent des tours. Tu sais, on a un petit chien, puis on dit, c'est quoi que tu veux? Dis-le, puis là, elle se met à japper. Puis, tu sais, on peut apprendre aux animaux des choses. Mais j'ai jamais vu un singe faire un autel pour adorer Dieu, par exemple. Hein? Ils n'ont pas l'esprit, ils n'ont pas de conscience que Dieu existe, mais l'homme, dans sa folie, il veut qu'on descende d'un animal qui n'a jamais reçu l'esprit de Dieu. Mais on voit ici les promesses de Dieu, hein, dans Éphésiens chapitre 2. Puis on peut aller aussi dans Galates au chapitre 3. Il dit au verset 15, « Frères, je parle à la manière des hommes, un testament en bonne forme, bien que fait par un homme, n'est annulé par personne et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. » Sa descendance, hein? Il n'est pas dit « et aux descendances », comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme il s'agit d'une seule et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Donc, on voit déjà dans le plan de Dieu, il savait qu'un jour, il a été prédestiné avant la fondation du monde. Puis, à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Et donc, on voit, longtemps avant qu'Israël existe, hein, même avant que Jacob soit né, Dieu a promis de bénir toutes les nations par la postérité d'Abraham. On voit ça au verset 8 dans Galates 3. Ainsi, l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait qui? Les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. « Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. » Donc, on voit les dispensations, la responsabilité de l'homme et une continuité dans le plan de Dieu, hein, la foi. Ça prend tout le temps la foi dans ce que Dieu fait, comment est-ce que Dieu veut qu'on agisse dans son plan à lui, tout en ayant la possibilité de refuser de participer à cette bénédiction-là. Hein? Large est la porte, puis large est le chemin qui mène à la perdition, puis étroite est la porte, resserrée le chemin qui mène à la vie, puis il y en a peu qui le prennent. On a un choix, là. On peut prendre le chemin large ou le chemin étroit. Hein, moi, je le vois comme ça. Donc, dans l'ancienne dispensation, on voit que c'était par Israël. Dans la nouvelle, les bénédictions viennent par et en Christ, le descendant d'Abraham. On pourrait retourner dans Galates au chapitre 3, le verset 26, il dit « Car vous êtes tous fils de Dieu, comment? Par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » On est revêtu non de notre propre justice, mais de la justice de Christ. Si on s'approche de Dieu, ce n'est pas à cause de nos mérites, mais à cause de la justice du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier de la promesse. Donc on voit, il n'est pas qu'il y a des différences entre les juifs et les païens, entre les esclaves, les libres, ceux qui sont libres, les hommes, les femmes, mais plutôt qu'en Christ, ces différences-là, ils n'ont plus d'importance maintenant, comme elles en avaient auparavant. Hein, parce qu'on sait, les juifs, ils voulaient même pas serrer la main des païens. Une fois, on avait été à Sherbrooke, on avait un cours là, pour les assurances, puis c'était dans un hôtel, puis il y avait un groupe de juifs on les a entendus parler au gérant, puis là, le gérant, il a voulu lui serrer la main, puis il a dit « Non, je ne peux pas te serrer la main, t'es impur, tu sais. » Il ne pouvait pas serrer la main. Puis là, il est en train de discuter pour la nourriture, il fallait soit eux autres qui préparent leur nourriture, puis il fallait pas que les employés de l'hôtel touchent à la nourriture. On voit que c'était compliqué pour eux autres, mais en Christ, tout ça, ça a disparu, ça n'a plus d'importance. Puis on voit qu'après, ben, il compare la dispensation de la loi à un enfant qui est sous la garde de tuteur ou d'administrateur, l'autre mot, là, oikonomia, oikonomos, c'est-à-dire, il change la fin du mot, parce qu'en grec, les mots se déclinent, ils s'accordent selon la position, dans la phrase. Donc, jusqu'au temps marqué par le Père, ça c'est dans Galates au chapitre 4, premier verset, « Aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier de la grâce de Dieu. » Donc, on voit encore ici un changement de dispensation dans l'intendance, dans la gestion, dans l'administration de la loi, par une gestion, une administration par l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ. De l'attention qui est portée sur Israël à l'inclusion de toutes les nations de l'Ancien au Nouveau Testament. Donc, ce qui ne change pas, c'est la manière d'être sauvé. C'est par grâce, par le moyen de la foi. Toutes les dispensations, ça prend leur racine dans cette promesse-là que par la foi, on peut plaire à Dieu en mettant notre foi dans la personne que Dieu a choisie, que toutes les nations seront bénies dans la postérité d'Abraham. Puis aussi, ce qui ne change pas, c'est qu'on l'a vu, hein, Dieu il rassure. Même si on manque à nos responsabilités, il est gracieux envers son peuple. On sait qu'un jour, il va rétablir son peuple. Hein, ils vont reconnaître celui qu'ils ont percé, puis ils vont dire qu'est-ce qu'on a fait. Hein? Puis souvent, on veut limiter... Que l'Église puis Israël, c'est la même chose. C'est une école de pensée qui se développe de plus en plus. Mais Daniel 9, hein, c'est vraiment la vision de Daniel dans Daniel chapitre 9, là, au verset 24, quand il parle de la dernière semaine des 70 semaines. Et au verset 24, il dit « 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. » Il s'adresse à qui, là? À Daniel, un juif. Hein, il s'adresse à la nation d'Israël. Il dit « C'est sûr, ça concerne le peuple d'Israël, puis ça concerne la ville de Jérusalem, que Dieu a mis son trône là, son temple là, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le saint des saints. » Donc, on voit, cette prophétie-là, c'est pour Israël, c'est pas, C'est pas pour l'Église. Elle s'appelait à Israël puis à Jérusalem, la capitale de la nation d'Israël. Donc, puis, ce qui change pas, ben, c'est que Dieu est gracieux envers son peuple. Mais pour nous aujourd'hui, la situation est bien meilleure sous cette nouvelle dispensation-là, parce que c'est mieux de vivre après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ qu'avant. Parce que maintenant, on n'a plus besoin de faire des multitudes de sacrifices, hein, pour obéir à la loi de Dieu, mais un seul sacrifice, un unique sacrifice, à la place de milliers de sacrifices d'animaux, est suffisant maintenant. Dans Hébreux, au chapitre 7, il dit au verset 26, Hébreux 7, 26, « Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés. » Et c'est pour ça qu'il avait besoin d'être répété, parce que celui qui offre les sacrifices, fallait qu'il les offre pour ses péchés à lui. « Ensuite, pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. » Donc, on voit que cette promesse-là, bien, elle s'applique à nous. Quelle délivrance, hein, on a en Christ. Donc, on voit que on a vu trois passages où le mot dispensation est utilisé. C'est une révélation évidente dans les Écritures. Hein, il y a la dispensation de la loi mosaïque, la dispensation présente de la grâce, puis la dispensation future du royaume millénaire. Puis ça se succède chronologiquement, mais ils sont distincts. Parce qu'à chaque fois que l'homme manque, bien, Dieu est obligé d'intervenir d'une manière différente. Un peu comme nous, comme ça a été dit avec nos enfants. Plus ils grandissent, bien, et des fois ils manquent, mais on lui donne des nouvelles responsabilités, plus ça avance. Donc, pour les autres dispensations, on ne voit pas nécessairement le mot dispensation ou oikonomia, là, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas pour autant, puisque ça ne dépend pas seulement les sept dispensations, si on veut, de la présence de ce mot-là ou de ses dérivés, mais ça prend un changement d'administration. Comme on a vu avec le récit de la création, l'innocence de l'homme, puis une fois que le péché est arrivé, ben Dieu a dû intervenir. Et ils ont été chassés du jardin, mais Dieu leur a donné la connaissance maintenant. Il y avait la connaissance du bien et du mal. Puis on voit cette connaissance-là, ben, au lieu de pencher vers le bien, ils ont penché vers le mal, parce qu'il y a eu le déluge, n'est-ce pas? Donc, mais malheureusement, aujourd'hui, ben, on a vu, hein, souvent, on se donne plusieurs. Il y a une école de pensée qui contredit les dispensations. On appelle ça la théologie de l'alliance ou du remplacement. Donc, eux autres, ils voient l'Église déjà dans l'Ancien Testament. Puis, les deux approches utilisent les mêmes données, mais avec des interprétations différentes. Puis, ça me fait penser, aujourd'hui, ben, souvent, on se laisse influencer par l'évolution, hein, la théorie de l'évolution. Puis, nous, on sait que la Bible, elle parle de la création par Dieu. Donc, la théorie de l'évolution, sa manière de voir les choses, d'interpréter, hein, ils ont les mêmes données que nous autres, là, ils regardent les mêmes fossiles, ils regardent les mêmes dépôts, sédiments rocheux, ils regardent les mêmes choses, mais avec une méthode d'interprétation qui est différente. Donc, ça, c'est basé sur la théorie, l'évolution de Charles Lyell, ça s'appelle l'uniformitarisme. Ça soutient que tous les processus géologiques actuels, l'érosion, la sédimentation, qui façonnent la Terre, ils façonnent ça sur de longues périodes, de manière tout le temps graduelle. Donc, cette approche-là, ben, c'est pour remplacer l'approche catastrophique de la création de la Bible. Ça veut dire, la Bible a dit qu'il y a eu un déluge, un événement qui a transformé, qui a modifié complètement toute la surface, de la Terre. Donc, ce que l'Ariel dit, c'est le présent, c'est la clé du passé. Si j'observe quelque chose aujourd'hui, c'est la même chose qui s'est produite, dans le passé. Donc, ce qu'on observe, aujourd'hui, si, on voit des sédiments qui se déposent tranquillement, année après année, bien, ça a tout le temps été comme ça. Ça veut dire que déluge, ça n'a jamais existé. Mais pour que ça se produise, ça prend des milliers d'années, des millions d'années, etc. Comme l'évolution, hein, on voit pas d'évolution naturellement. On voit de la sélection naturelle, mais on voit pas, d'évolution. Le créationnisme, on s'appuie sur la Bible, hein, la Genèse, premier chapitre, que le déluge a réellement eu lieu, puis que la Terre est relativement jeune. Et puis, pour confirmer cette position-là, on n'a pas honte d'être créationniste, là, de dire que la Terre est jeune, parce qu'en 1980, il est arrivé un événement particulier aux États-Unis, je ne sais pas si vous le savez, il y a eu l'éruption du Mont Sainte-Hélène dans l'État de Washington. Puis, il y en a eu un autre sur le Mont Sainte-Hélène en 1982. Savez-vous, c'est quoi qui s'est produit à ce moment-là? Ben, il y avait de la neige, puis quand le volcan est entré en éruption, ça a fondu. Il y avait un lac sur les pentes du volcan, puis la barrière qui retenait le lac assez brisée, puis toute l'eau s'est écoulée, un peu localement, mais un déluge local, on va dire, hein? Toute l'eau. Puis qu'est-ce qui s'est passé? En quelques heures, il y a 400 pieds de sédiments qui se sont accumulés. Ces sédiments-là ont durci, ça a formé du roc, parce que plus la pression est haute, la température augmente, puis là, la roche peut se former, finalement, elle se refroidit, puis ça crée de la roche. Puis ils ont daté, justement, aux éléments radioactifs, ces roches-là qui venaient de se former, puis ça a donné des millions d'années comme date de création. Donc, faut vraiment en prendre les millions d'années là avec un bon grain de sel. Le bois s'est fossilisé en peu de temps. Puis il y a un canyon de 140 pieds de profond qui s'est créé dans cette courte période de temps où l'éruption s'est produite. Donc on voit que ce que la Bible dit là, ça a du sens. On n'a pas à se laisser influencer à être des évolutionnistes théistes. On n'a pas essayé de rajouter des périodes de millions d'années entre les jours de création. On n'a pas à rajouter un gap entre le premier verset et le deuxième verset pour se mettre. Mais tout ça pour dire que avec la théologie de l'alliance, du remplacement, que l'Église, Israël n'existe pas, que c'est déjà le plan de Dieu, c'était que l'Église existait déjà dans l'Ancien Testament. Ben, justement, leur méthode d'interprétation est basée sur une bonne exégèse, mais sur une méthode d'interprétation. Quand ils parlent du futur, ben, ils mettent ça comme une allégorie. Hein, c'est pas ce que vraiment les mots veulent dire, mais c'est ce que eux autres pensent que ça voulait dire pour être conforme à leur manière de penser. Donc, juste ça pour dire que on peut se confier dans la parole de Dieu, puis faut faire attention à ce qu'on écoute. Faut faire attention. C'est des chrétiens là des fois qui amènent même dans le temps du Seigneur. Hein, il y avait des gnostiques, il y avait toutes sortes de pensées, puis il fallait qu'ils luttent contre ça. Il fallait qu'ils luttent contre toutes ces interprétations que le Seigneur n'était pas vraiment Dieu. C'est arrivé tôt, mais faut pas se laisser influencer, faut se laisser influencer par la parole, faut que les versets confirment, se relient avec les autres versets, puis tout soit en harmonie ensemble. Et puis, faut pas se laisser aller à tout vent de doctrine. Et puis, faut vraiment être ferme dans la parole. C'est important de prendre le temps d'étudier la parole, puis d'avoir foi que c'est la parole de Dieu. Dieu ne se contredit pas. Dieu ne se contredit pas. S'il y a un verset qui semble aller à l'encontre d'un verset clair, bien c'est sûr que c'est mon verset clair. Hein. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Y a-t-il quelque chose de plus clair que ça? Hein? Quiconque croit en lui. Puis il a tant aimé le monde, pas juste une partie du monde, mais le monde. Donc, puis on voit que Dieu a un plan pour Israël, on l'a vu dans Daniel au chapitre 9, puis on voit qu'à la fin, Israël va être restauré, parce qu'enfin, ils vont reconnaître le Messie qu'ils ont rejeté. Alors que le Seigneur bénisse sa parole, on va prier. Oui, Seigneur Dieu, on veut te remercier encore une fois de parler à nos cœurs à travers ta parole, qu'on peut vraiment te faire confiance. On sait que tu es un Dieu de détails, Seigneur Dieu. Lorsqu'on regarde la construction du tabernacle, il y a tellement de détails, puis tous les détails ont une signification. Tu as dit à Moïse, soin de tout faire d'après le modèle qui t'a été montré. Quel modèle, Seigneur Dieu, que nous avons, qui vaut la peine de regarder, parce que ça nous parle de Christ, ça nous parle de ta grâce, ça nous parle de ton amour. Et on te prie ce soir, pour cette journée, d'avoir affermi nos cœurs, de nous avoir bénis dans la communion fraternelle, bénis dans la foi commune, Seigneur Dieu, et qu'on puisse travailler ensemble à l'unité de la foi, qu'on puisse utiliser tous les dons, que ce soit monétaire, notre temps, que ce soit nos talents, nos dons spirituels, Seigneur Dieu, pour ta gloire. Puis jamais oublier qu'un jour, il va falloir rendre compte de comment on aura administré, Seigneur Dieu, ce temps que tu nous donnes dans ta grâce. On te prie de nous bénir, on veut te prier pour le repas ce soir, que tu nous, on te remercie de ta fidélité et de pourvoir à tous nos besoins. On te prie de protéger sur la route ceux qui vont retourner à la maison et de nous bénir demain aussi dans l'adoration de ce Sauveur si grand que nous avons et si parfait. Et on te loue en Jésus-Christ. Amen.